Depuis toujours, j'accumule les traces pour lutter contre mon angoisse de la disparition.
Oui, vous êtes bien sur le répondeur de Grégoire Denis. Veuillez rappeler plus tard.
C'est sûrement pour ça qu'un petit matin d'octobre, mon ami Béné m'a demandé de faire quelque chose avec ou autour de son fils Grégoire.
Mais j'ai pas envie d'en parler non plus, ça va être compliqué pour toi.
Car qui était-il vraiment ?
Il était double en réalité.
Timide.
Désespéré.
Et de quoi est-il mort ?
C'est un garçon qui avait une vraie fragilité.
Deux questions obsédantes, auxquelles j'en ajoute une troisième. Est-ce qu'on peut s'en sortir, un jour ?
On se voit pourquoi ?
Alors, on se voit pourquoi ?
Même pas mort, une série des pieds sur terre de Sophie Simoneau et Sylvain Richard à retrouver sur le site de France Culture et l'appli Radio France dès le 10 octobre.
Les pieds sur terre, Karine Leloette.
Ce jour de mars 2017, Rachel témoigne devant la cour d'assises du Gard. Elle est assistante maternelle, elle a 37 ans, des cheveux bruns, une silhouette brune et frêle. Devant les jurés, elle raconte cette nuit d'avril qu'elle ne cesse de revivre en rêve. Les experts appelés à la barre ont d'ailleurs souligné qu'elle souffrait d'un syndrome post-traumatique sévère. Elle explique surtout comment, 4 ans plus tôt, son monde s'est littéralement effondré. Dans le box des accusés, la personne qui lui fait face est un être affreusement normal, juste un peu plus lâche que la moyenne, a souligné l'avocat général. Un être qui a joué sa partition dans ce drame familial qui ressemble tristement à un mauvais scénario de film, avec tous ses ingrédients. Le fils brillant, la belle-mère acariâtre et l'enfant au centre. Ce serait presque caricatural si ce n'était tragiquement réel. Et si ça ne racontait pas, encore et toujours, l'histoire des violences faites aux femmes. Je ne peux pas vous en dire plus sans risquer de vous en dire trop, ou de vous mener sur de fausses pistes. Mais ce qui s'est passé avant ce procès du Gard, c'est Rachel justement qui le raconte. Au micro de Claudia Prolongeau.
Je m'appelle Rachel, j'ai 45 ans. Je suis maman d'un préado de 13 ans et j'habite en Alsace. Alors j'ai été séparée très jeune de mes parents. Voilà, j'avais un papa qui souffrait d'addiction et qui se livrait à des trafics. Ma maman, elle, avait des troubles qui ne lui permettaient pas de nous élever. Donc on a été placés avec ma petite sœur très rapidement. Voilà, j'ai eu la chance de grandir dans un foyer familial. Un couple qui s'occupait de 12 enfants, donc c'était comme avoir une grande fratrie, c'était des gens très investis. J'avais beaucoup de chance dans ma malchance, on va dire. Je voulais vivre dans le sud parce que je suis d'origine sicilienne et je ne comprenais pas pourquoi ma famille vivait en Alsace. Pour moi, l'Alsace, le climat, c'était un peu rude. Et j'ai toujours dit, quand je serai plus grande, j'irai vivre dans le sud. Et puis, ça a été chose faite. Je suis descendue au soleil. J'étais assistante médicale à la médecine du travail et formatrice en secourisme. Alors en 2010, je rencontre Fabrice Autran par le biais d'un site de rencontre. C'était très rapidement un vrai coup de foudre. C'était vraiment quelqu'un de bien sous tout rapport, l'homme idéal quoi. Il était diplômé de l'école des mines, sa famille était très bien, son papa était commissaire de police. Il était entouré d'amis qui étaient géniaux, donc... Voilà, il était grand, il était beau, il avait tout pour lui. Et très rapidement, on s'est installés ensemble. Donc, on avait projeté une date de mariage. Il a fallu l'annuler parce que notre mariage tombait au même moment que ma date d'accouchement. Parce qu'entre-temps, je suis tombée enceinte. Voilà, mon petit garçon est né le 25 mai 2012. Alors, au début, sa mère m'a accueilli les bras ouverts quand j'étais la petite amie qui habitait loin, voilà. J'ai commencé à emménager avec Fabrice et j'ai senti qu'elle était très, très, très présente au sein de notre foyer, quoi. Elle avait son mot à dire sur tout, sur la déco, sur les choix qu'on pouvait faire. Ça m'agaçait un peu, mais bon, je me suis dit, bon, ça lui passera. Elle verra que notre couple est solide et qu'elle va devoir commencer à s'effacer petit à petit. Puis j'ai appris aussi qu'elle avait en fait une vue sur les comptes. Elle regardait régulièrement les dépenses qu'on pouvait faire parce qu'on avait un compte joint et elle se permettait de commenter les courses qu'on pouvait faire. Enfin, je trouvais ça très envahissant. Et quand mon fils est né, c'était difficile. Je faisais jamais rien de bien. J'étais nulle. Heureusement qu'elle était là. Enfin, c'était compliqué, quoi. C'était vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Alors j'en parlais avec Fabrice et il me disait « Ah mais non, mais tu comprends, elle a toujours été comme ça, puis là en vieillissant ça va pas mieux, enfin je veux dire, elle m'en veut, je sais pas pourquoi, je suis peut-être pas la belle fille qu'elle aurait aimée, je sais pas ce qu'elle peut me reprocher, je suis pas parfaite certes, mais je veux dire, à un moment j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas quoi. » Et s'opposait pas à elle, mais personne ne s'opposait à moi, ben quelque part... Avec mon franc-parler, et puis quand j'estimais être dans mon bon droit, je le disais. Donc oui, forcément, ça devait pas plaire, quoi. Je ne me soumettais pas à son autorité. Et quand mon fils est né, donc c'était assez compliqué. Lui, Fabrice, continuait sa vie un peu comme si de rien n'était. Il n'avait pas aménagé ses horaires plus que ça. Notre relation a commencé vraiment à se dégrader au moment de ma grossesse. En fait, c'était... comment dire ? Il pouvait être assez violent, assez cassant dans ses mots, dans sa façon d'être. Et puis après, il soufflait le chaud et le froid quand il allait trop loin. J'avais un bouquet de fleurs, il se montrait un peu plus attentif. Il y a eu ce basculement quand je suis tombée enceinte. Et je me souviens d'une fois où on n'était pas d'accord sur quelque chose et c'était assez virulent. Et il a levé la main et je lui ai retenu. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit ça. Tu le feras qu'une fois. Donc en fait, les coups qu'il aurait dû me mettre, je pense que ça a été des coups psychologiques, quoi. J'étais très seule, très seule. Je voyais bien qu'il y avait un souci. Je pense que j'aurais dû partir. Mais que quelque part, j'ai eu cette idée... idiote, hein, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul, de me dire que je voulais offrir à mon fils ce que j'avais pas reçu, à savoir une famille. Et je me suis dit, il va changer. Alors, c'était pas des coups, mais c'était de la violence. Oui, de la violence quand même. Ouais. Et en janvier 2013, j'ai écrit une lettre à la maman de Fabrice disant que on pouvait pas rester comme ça, qu'on avait un intérêt commun à savoir le bien-être de Fabrice et puis de mon fils aussi, que il fallait qu'on apprenne à coexister en bonne intelligence, même si c'était pas le grand amour, va falloir qu'on apprenne à vivre ensemble. C'est resté sans réponse. Elle avait décidé qu'on se rejoigne tous, qu'on se réunisse. Donc, elle avait fixé la date au 6 ou 7 avril, je ne sais pas. Et dans la journée du 5 avril, je ne me sentais pas très bien. Alors, je ne sais pas si c'est le stress de la rencontre ou quoi. Enfin, j'étais allée me coucher assez tôt, je n'étais pas bien. Et en pleine nuit, la lumière de la chambre s'allume. Alors, au début, j'ai cru à une défaillance électrique, je ne sais pas pourquoi. J'ouvre les yeux et je vois au pied du lit un homme en noir, enfin, une masse noire, quoi. Et ce gars se précipite sur moi, disant « bouge pas, bouge pas ». Voilà, et je prends une première balle dans la poitrine. Donc j'ai bien compris que si je bougeais pas, je mourrais, quoi. Et Fabrice était allongé à côté de moi. Il semblait dormir. Alors, il faut savoir que moi, je fais 1m65, lui, il fait quasiment 2 mètres, hein, 100 kilos. Donc je me retrouve à un moment en étau entre cet homme en noir armé et puis Fabrice... avec le gabarit qu'il a, quoi. Et je pousse Fabrice, j'arrive pas à le faire sortir du lit, ni à le réveiller, enfin... Et là, je prends une deuxième balle dans la jambe. Je continue à pousser autant que je peux, et là, Fabrice bascule du lit, il tombe. Hein. Et c'est que parce que j'ai réussi à le faire tomber du lit qu'il s'est réveillé. Et là, l'homme me suit sur le lit. J'ai ma jambe qui reste bloquée. Et là, je prends un troisième tir, quoi, dans mon mollet. Et il continue à me viser, à me viser, à me viser. Et je vois que bah, y a un problème. Ça tire plus. L'arme s'est enrayée. J'en profite pour lui parler et je lui dis « Mais prenez l'argent, les bijoux, mais partez, partez, on a un bébé !» Et là, il part. Et là, je me dis « Mince, mais qu'est-ce que je viens de faire, quoi ? Mince, mon bébé !» Là, je dis à Fabrice, j'ai dit « Écoute, va voir le petit, va voir le petit. » Et Fabrice quitte la chambre, je m'écroule sur le lit, il y a du sang partout. Bon, par chance, j'ai une formation de formatrice en secourisme, donc je savais qu'il fallait comprimer. Et j'entends rien dans le babyphone. Fabrice qui revient pas, je me dis, mais enfin, si ça se trouve, mon fils est mort, et puis il n'ose pas me le dire, quoi. Ou si ça se trouve, le gars est parti avec mon fils, enfin. Donc je vois Fabrice réapparaître, seul, hein, dans la chambre, et il me dit, c'est bon, le petit, ça va. Et là, ben, il a pris son téléphone et il a composé le 15. Et je suis prise en charge assez rapidement, quoi. Et pour moi, clairement, je reverrai plus mon fils, quoi, parce que j'étais consciente d'avoir perdu énormément de sang. Enfin, ça dégoulinait, c'était. Enfin, j'avais pris une balle dans la poitrine, pour moi, c'était fini, quoi. Je savais pas ce qui était touché, le cœur, le poumon, je savais pas. Et ce qui m'en hante le plus de cette agression, c'est que je savais que si j'arrêtais de comprimer, j'arriverai ben, jusqu'au berceau de mon fils, mais je mourrai au pied de son lit. Et c'est ce qui me hante encore maintenant, c'est qu'à un moment, il a fallu que je me choisisse. Et ça, pour moi, c'est. Je pense que ça me hantera jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Et quand je suis partie de cette maison, que je leur ai fait mes adieux, j'ai vu tout ce que j'allais louper de la vie de mon fils, quoi. J'ai supplié, j'ai prié autant que je pouvais. De rester là pour lui. J'étais très rapidement transfusée, opérée. J'ai pris une balle dans la poitrine qui a quand même transpercé le poumon. La deuxième balle a frôlé l'artère fémorale. La troisième balle m'a littéralement explosé le mollet. Et le chirurgien vasculaire m'a dit « Mais je comprends pas que vous en soyez sortie. » Et moi, je recevais beaucoup de visites policières aussi, qui étaient quand même encadrées par le personnel médical parce que c'était éprouvant. Parce que ben, ils me posent des questions, des fois un peu, j'ai trouvé insultantes, en me demandant si j'avais un amant, laissant planer des suppositions. Enfin, et j'ai de suite su que c'était pas un cambriolage qui avait mal tourné. Parce qu'à aucun moment, on m'a demandé des bijoux, de l'argent, des codes de carte bleue, rien du tout. La personne est venue, elle s'est précipitée sur moi et elle m'a tiré dessus, dans mon lit. Et je me suis torturée la tête, mais pendant des jours, des semaines, en me disant, mais qui peut m'en vouloir ? Enfin, j'étais jusqu'à me dire, mince, j'ai klaxonné ce gars-là qui m'a fait un refus de priorité. Mais je me suis dit, c'est quand même pas possible, on se fait pas tuer pour un refus de priorité. Enfin, et j'ai posé la question à Fabrice, parce que lui, à l'époque, travaillait dans le milieu des déchets, qui est un milieu assez sulfureux, hein, on va dire. Et auparavant, il avait une boîte de nuit. Donc je me suis dit, si ça se trouve, c'est Fabrice qui a des ennuis. On met la pression sur sa famille et sur sa femme, quoi. Il a dit « Mais non, mais je pense pas. » Pour lui, ça venait de mon côté. Ça venait du fait que bon, mon père avait dû avoir des fréquentations pas très recommandables. Et alors qu'avant, bah, il n'y avait rien du tout. C'était pas équipé du tout. On transforme la maison en bunker. On met des caméras de vidéosurveillance partout. On surélève le mur d'enceinte qu'on agrémente de tessons de bouteille. On met des alarmes différentielles et à l'intérieur de la maison, au niveau du rez-de-chaussée et à l'étage, de sorte que si je suis à l'étage, je peux sécuriser le rez-de-chaussée et le jardin. J'aménage une des pièces attenante à la chambre de mon bébé et je la transforme en panic room. Et là-dedans, j'ai mis des couches, des biscuits, des jouets, du lait, enfin tout ce qui pouvait nous être nécessaire en cas d'attaque, un chargeur de téléphone, enfin tout ce que je pouvais pour pouvoir patienter. Je me souviens d'une fois où j'étais seule avec mon petit, je lui faisais prendre le bain et il y a eu une coupure de courant. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ça y est, ils reviennent, je vais me faire buter quoi. Et en fait, il n'y avait qu'un disjoncteur à remonter quoi. Mais je vivais comme ça. J'étais persuadée qu'on allait terminer le travail. En décembre 2013, je reçois un coup de fil des policiers qui me disent « on a arrêté la personne ». Je dis « ah, d'accord, ok ». Il me dit « mais il y a encore quelqu'un ». Je dis « ah, bon, d'accord ». Et j'ai raccroché, j'ai appelé Fabrice, j'ai dit « écoute, apparemment, ils ont trouvé le gars, je sais pas, ils ont quelqu'un, mais ils continuent à chercher quelqu'un d'autre ». Et le même jour, il me semble, le soir, j'étais avec mon fils, on revenait des courses, et je vois arriver le SRPJ qui me dit bah, « Fabrice a été mis en garde à vue ». Je leur dis « mais enfin, n'importe quoi, enfin, ça va pas ou quoi ?»« Mais c'est pas lui, enfin, trouvez le vrai coupable, parce que là, vous êtes en train de faire une connerie mais monumentale, quoi ». Donc j'ai la commandante de police qui après ça m'appelle et qui me dit « bon, écoutez, il est passé aux aveux, c'est bien lui qui a tout commandité ». Et je suis sortie et j'ai poussé mais un cri de bête. Hein. Oh, j'étais mais... Voilà. Je me suis dit « mais c'est pas possible, pourquoi il a fait ça ?» Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Pourquoi est-ce que, s'il ne voulait plus qu'on soit ensemble, pourquoi à un moment il n'a pas dit écoute, on se sépare, ça ne va plus? Ou on avait refixé une date de mariage. On prévoyait d'avoir un deuxième enfant. On m'a dit il avait pris la décision. Alors attention, il avait pris la décision au moment du premier Noël de mon fils. Voilà le cadeau qu'il a mis au pied du sapin de mon fils, l'assassinat de sa mère. Parce que sa mère et moi ne s'entendaient pas et que du coup il avait trouvé cette solution-là. Les difficultés relationnelles entre belle-mère et belle-fille, c'est des choses assez courantes. J'espère que c'est pas une solution qui arrivera fréquemment dans la tête de ces messieurs, parce que sinon ça va être une vraie hécatombe. Il n'a pas envisagé la séparation parce que pour lui, comme dans beaucoup de féminicides, je lui appartenais, j'étais à lui. Il n'aurait pas supporté que je puisse refaire ma vie avec quelqu'un, donc il a trouvé cette solution-là. Il a préféré m'éliminer. J'ai plus de contact avec les parents de Fabrice. Avec son frère, on avait pu échanger brièvement au téléphone, mais c'est quelqu'un de très bien. Et malgré toute l'affection que je peux avoir pour sa fille, qui était je la considérais comme ma petite nièce, je l'adorais. J'ai décidé de couper les ponts avec tout le monde. Quand Fabrice a été appréhendé, mon fils avait 18 mois. Donc le soir, il attendait que son papa rentre, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et je lui ai dit que son papa avait fait une grave, grave, grave bêtise. Et que maintenant, on était ensemble, lui et moi, et que tout allait bien se passer, que j'étais là pour lui, mais que on ne reverrait plus papa. De suite après son incarcération, il a demandé une audience au niveau du juge des affaires familiales pour obtenir un droit de visite sur mon fils. Alors, les lois n'étaient pas ce qu'elles sont. Il y a quand même un juge des affaires familiales à l'époque, donc en 2014, qui a voulu contraindre mon petit garçon de 2 ans à venir s'asseoir sur les genoux de l'assassin de sa maman. Tous les 15 jours quand on était dans le sud, puis après une fois par mois. Et voyant le dossier que j'avais monté, en fait, il s'est ravisé et m'a proposé ce que j'ai vécu comme un vrai pacte avec le diable et que j'ai dû signer, à savoir qu'il renonçait temporairement à ce droit de visite, en échange de quoi je devais m'astreindre régulièrement à lui donner des nouvelles de mon fils et lui envoyer des photos. Donc, j'écrivais tout sauf la réalité. J'avais pas envie de dire ce qui se passait dans la vie de mon enfant. C'était des photos format timbre-poste. J'avais pas envie qu'il affiche ça dans sa cellule. Et Moi qui avais eu ce rêve d'enfant de vivre dans le sud qu'il avait réalisé, je me suis retrouvée, chose que je m'imaginais mais pas du tout faire un jour, remonter en Alsace quoi, avec mon petit sous le bras. J'ai tout recommencé à quasiment 1000 km de là où j'avais fait ma vie quoi. Au procès, en mars 2017, j'ai été représentée par une avocate extraordinaire, vraiment. Dans cette cour d'assises, tout le monde a pu voir mon enfant, tout le monde a pu voir les répercussions que ça pouvait avoir sur lui, mais en tant qu'individu, pas simplement en tant que « Ah, on a fait du mal à ta mère », mais vraiment, c'était un moment, je pense, j'entendais les sanglots dans l'assistance. Je pense que tout le monde a perçu ce que devrait traverser mon fils, ce avec quoi il allait devoir grandir. Et il avait envisagé de m'assassiner de multiples façons, en fait. C'était vraiment préparé. Il était question d'un accident de la route, d'un empoisonnement, donc des poisons indétectables, d'un faux suicide. Donc ils étaient venus à la maison en mon absence pour tester la rambarde de l'escalier à laquelle ils avaient pensé me pendre. J'ai aussi appris que le dernier rendez-vous pour mettre au point les derniers détails de mon assassinat, c'était devant la crèche de mon fils. Enfin, il en était même arrivé à préparer le texte de faire-part qu'il allait envoyer à tout le monde quand il serait veuf, à calculer le montant de ses impôts. Il avait tout anticipé, tout imaginé, tout méticuleusement préparé. Donc Fabrice Autran a été déchu de ses droits parentaux et condamné à 27 ans. Il faut savoir que l'avocat général avait requis 30 ans et dans ses réquisitions, il avait bien dit « J'aimerais que cet enfant puisse grandir sereinement au moins jusqu'à sa majorité. » Je savais pertinemment qu'il ne ferait pas 27 ans puisqu'il y a ce mécanisme de remise de peine quand les auteurs de crimes se comportent entre guillemets bien en prison. Ils font les deux tiers de leur peine. Donc pour moi, deux tiers de 27, 18, pour moi c'était acté. Il ferait 18 ans de prison. Je vais au moins pouvoir être tranquille avec mon fils et pouvoir lui permettre de grandir sereinement jusqu'à sa majorité. J'ai été soulagée. Mais malheureusement, il n'a eu de cesse de nous harceler, de nous malmener par divers moyens. Enfin, tout ce qui était à sa portée, il l'a fait, quoi. Que ça soit des courriers, que ça soit des menaces qui ont été après mises à exécution avec des procédures aux juges aux affaires familiales, ça ne s'est jamais arrêté. Et en septembre 2024, mon avocate m'appelle et me dit « Écoutez, là, on vient d'avoir un courrier de la Chambre d'application des peines d'Agen. Fabrice Autran demande à sortir. » Je dis « Il peut demander ce qu'il veut, c'est pas possible. » « Si, c'est possible. » Puisque sa période de sûreté a été totalement relevée en 2022. La Chambre d'application des peines d'Agen a levé sa période de sûreté au bout d'à peine 9 ans. Donc, il a bénéficié de 5 permissions de sortie. Il a d'ores et déjà une promesse d'embauche, une location d'appartement, une nouvelle conjointe avec qui il s'est paxé. Les voyants sont au vert. Il demande sa libération. Donc, le ciel me tombe sur la tête parce qu'on est à 11 ans à peine après les faits, même pas. C'était en septembre, donc... J'ai appris que les périodes de sûreté peuvent être totalement relevées par les juges d'application des peines. Voilà, mon idéal de justice, clairement, on a pris un coup. Les 27 ans ont été prononcés, ont été relayés par les médias, ont fait les gros titres des journaux. Et dans l'ombre, on a complètement piétiné ce jugement de cour d'assises. On me reprend tout, quoi. On me reprend ma tranquillité d'esprit, on me reprend tout. Et donc, j'ai décidé de parler de mon histoire, parce que je me suis aperçue que j'étais pas seule. Il y a des gens qui sont venus m'envoyer des messages en me disant « Mais attends, moi aussi, il m'arrive ça. » Et puis, on m'a même pas prévenu qu'il était sorti. Je l'ai découvert devant chez moi. On fait de la lutte contre les féminicides, soi-disant une priorité dans notre pays. Et en fait, voilà ce qu'on fait en réalité des verdicts des auteurs de féminicides, quoi. Je comprends que la prison ne soit pas la réponse à tout, qu'il faille des aménagements de peine et qu'il faille aussi la possibilité de se réinsérer. Mais c'est insupportable parce que je ne suis que l'arbre qui cache la forêt. Et je me suis rapprochée, ben, du coup, cette année, des plus grandes associations de lutte contre les féminicides en France. Leur présidente avec qui je suis en contact me disent « mais il y en a tellement, c'est incroyable et c'est d'une violence inouïe pour les familles ». Les femmes ne sont plus là pour en parler, mais il reste des enfants. Je ne comprends pas comment est-ce que dans les faits, on prend si peu cas des victimes miraculées du féminicide, quoi. Et le responsable de gendarmerie de mon secteur, qui m'a reçu, m'a parlé d'un éventuel dispositif grand danger. Je ne veux pas de ce dispositif. Moi, ce que je veux, c'est que le grand danger reste là où il est. Je vis pas sereinement. Quand je me sens un peu suivie, je fais deux fois le tour du rond-point. Je vis comme si j'étais traquée. Concrètement, j'ai peur qu'il sorte. La crainte que j'ai, c'est qu'à un moment, mon fils se retrouve nez à nez avec lui. Depuis petit, mon fils est au courant de tout. Là, il sait que Fabrice Autran a entamé des démarches pour sortir. Pour lui, ça lui est insupportable. Ce que Autran a fait, c'est insupportable, c'est inconcevable. Et il faisait des sports de combat justement pour être amené à nous défendre. Et il me dit, si je le croise ou s'il m'approche, il verra que voilà, je suis plus un bébé, quoi. Mais j'essaye d'endiguer ça. Je veux qu'il soit le plus serein possible. Donc je lui dis, si tu veux ta revanche sur tout ce qui s'est passé, ta plus belle revanche, c'est d'être heureux. J'essaye de faire en sorte qu'il n'ait pas de haine pour lui.
Side by side on Holloway Road, never thought you were my ghost. Cause you make me overthink, chasing down my misbeliefs. Whenever you look inside, there will be a piece of me.
C'était une émission de Claudia Prolongeau, réalisée par Clémence Gross et mixée par Ludovic Auger. Merci à Rachel. L'attaché de production, c'est Valentin Rémy. Et Luce Mourant, c'est notre stagiaire. Maybe it's all my head. Maybe it's all my head. Maybe it's all my head. I remember this way. Don't you dare, I know you by heart. Every move like a new start. But have we missed or haven't seen? Challenger 1986. Lean on me, I'm your wall. Walls that crumble.